Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Retour timide de la population dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru au nord Kivu, malgré la psychose et les caractères imprévisibles de la situation. Entre-temps, les FRDC ratissent tout autour de la cité de Bunagana après avoir stoppé l'avancée des rebelles du M23. Et puis, c'était hier l'ouverture des assemblées provinciales à travers les pays à Mbandaka. À l'occasion, le bureau annonce s'approprier le projet de développement des 145 territoires. Les élus provinciaux s'apprêtent à un contrôle sans complaisance des services publics. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est Walter Mukendi. Il est vice-président de la Commission économique et financière du Conseil économique et social. Il nous expliquera les recommandations faites par son institution au gouvernement pour enflouer les caisses de l'État à travers les contraventions routières. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord Kivu, la situation reste imprévisible dans le groupement de Djomba et la psychose reste perceptible dans les villages où l'on observe un retour timide de la population. Les FRDC poursuivent les opérations de ratissage tout autour de la cité de Bunagana après avoir stoppé hier mercredi l'avancée des rebelles vers Bunagana. Le point de la situation avec Gabriel Ouaménia.
Bien qu'une accalmie apparente s'observe depuis hier mercredi dans les zones de combat qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 depuis le début de cette semaine, la situation sur les lignes de front reste imprévisible. Les acteurs coutumiers et ceux de la société civile de Rutshuru redoutent la reprise imminente des combats entre les deux belligérants qui consolident chacun ses positions. Les rebelles qui se sont retirés mardi de la zone de Tchengerero, présentement sous contrôle de l'armée, se sont fondus dans la nature sans connaître exactement leur objectif et la direction qu'ils ont prise dans la zone. Aux alentours de la cité de Bunagana, où les FRDC les ont repoussés mardi dernier, les acteurs coutumiers de Djomba s'interrogent également sur leur destination et appellent la population et l'armée à la vigilance. Cette stratégie adoptée par les M23 qui maintient toujours ses positions conquises à Chanzu et Runyonyi ne laisse aucun doute que ces rebelles qui se seraient concentrés actuellement sur la colline de Bususa, près de la cité de Tchengerero, s'y reprennent l'armée par des combats ouverts sur plusieurs fronts, précises les sources concordantes dans les territoires de Rutshuru. Rappelons que le retour timide de la population est observé surtout dans les villages de Rwanguba, Bunagana et Kinyamaoro. Goma, Gabriel Ouaméa, Radio Okapi.
Je voudrais interpeller tous ceux qui pensent que le salut de Beni, Lubero, Butembo ou de la RDC se trouve dans les armes qu'ils se trompent. Ces propos sont du ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, notable du Nord Kivu, qui pense que l'activisme des groupes armés est un frein au développement de la partie nord de la province. Julien Paluku, qui l'a dit ce mercredi à Radio Okapi, appelle à l'occasion les chefs de groupes armés et leurs membres à déposer les armes pour permettre la relance de l'économie de la région. Julien Paluku est au téléphone de Florida Kambo.
D'abord, je voudrais m'adresser à ceux qui entretiennent les groupes armés, à ceux qui sont dans la déstabilisation de cette partie de la République, qui sont contre la population congolaise. Parce que les affaires, l'argent, le développement, l'investissement n'aiment pas là où il y a des bruits de bottes. Et donc, à travers votre micro, je voudrais interpeller tous ceux-là qui pensent que le salut de Beni, de Lubero, de Butembo ou de la RDC se trouve dans les armes, qu'ils se trompent. Et surtout les armes illégales détenues par les groupes armés. C'est le premier message. Le deuxième, c'est que, effectivement, le secteur commercial ou des investissements est affecté par cette guerre que je viens de dénoncer tout à l'heure. Et cela empêche à nos opérateurs économiques de devoir se relancer.
Pendant ce temps en Ituri, le diocèse catholique de Bunia a organisé hier mercredi une marche pacifique de la paix. Une messe a été également dite au terrain de l'Epo, ville en mémoire des victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. À cette occasion, l'évêque du diocèse catholique de Bunia a interpellé le gouvernement et ses partenaires à multiplier les efforts pour la restauration d'une paix durable dans cette province. Ézéchiel Mouzalia a couvert pour nous cette marche. Voici son reportage.
Des milliers de fidèles catholiques et de toutes les paroisses de la ville sans distinction des tribus ou des communautés ont répondu à cet appel de l'évêque du diocèse de Bounia. Les manifestants portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Nous exigeons la paix, l'État congolais doit neutraliser les forces négatives, les Ituriens doivent se solidariser des auteurs de nos souffrances ou encore la paix est un droit ». Selon l'évêque du diocèse catholique de Bounia, l'objectif de cette marche était d'interpeller le gouvernement à assumer sa responsabilité pour imposer la paix en Ituri, mais aussi appeler les groupes armés à cesser les violences en tuant leurs propres frères. Le Monseigneur Dieudonné Ouringi.
Il n'y a pas eu une mesure pour frapper fort, pour dire maintenant ça suffit. On ne peut pas tuer la population civile innocente là comme ça. Un civil ne peut pas se permettre de prendre les armes et commencer à tuer. Est-ce qu'il y a une loi qui permet ça? Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. Il faut arrêter les morts.
Le point de chute de cette caravane de paix était le terrain Epo-Ville de Bounia où une messe a été organisée pour honorer la mémoire de tous les Congolais qui sont déjà morts pendant les atrocités des groupes armés en Ituri. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa, le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS recommande au gouvernement congolais d'aborder en profondeur les causes structurelles, déclencheurs et aggravantes de la question du mouvement du 1-23 pour espérer la vider définitivement dans l'avenir. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à Kinshasa au cours d'un débat avec les acteurs de la société civile, les chercheurs et politologues sur la compréhension des conflits en RDC et les pistes de solutions, le chef de secteur de recherche et animation sociopolitique du CEPAS. Les participants à cette première série de débats ont émis le vœu de voir la RDC assurer seule sa sécurité et n'est pas la sous-traiter comme c'est le cas actuellement. Écoutez à ce sujet le père Rigobert Minani dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
On a l'impression que l'opinion à l'Ouest, principalement à Kinshasa, dans les milieux officiels comme dans les milieux de la société civile et des chercheurs, on n'en parle pas. Depuis 112 heures, on voit plus de 10 000 personnes sur la route de Bounagana, mais c'est comme si c'était un fait anonyme. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays. Le M23, c'est vraiment un arbre qui cache la forêt. Sa renaissance aujourd'hui, de façon pratique, c'est à cause de l'échec des négociations qu'ils ont faites dernièrement à Kinshasa. Mais fondamentalement, chaque fois qu'ils émergent comme cela, c'est souvent pour pouvoir pousser une cause qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Pour moi, le M23 aujourd'hui, c'est un épiphénomène et il est important d'aborder la question en profondeur, en connaissance des causes structurelles de ces conflits, déclencheurs de ces conflits et des causes aggravantes de ces conflits. Je pense que la première chose que le Congo doit faire, c'est de se faire sa propre doctrine de sécurité. Le Congo doit avoir le courage un jour de se mettre à table avec le Rwanda et de qu'on aborde les questions de façon franche. Jusqu'à présent, tout le monde fait le faux fuyant et ça ne va pas aider à quoi que ce soit.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province de l'Équateur, l'Assemblée provinciale a levé l'option de soutenir et de s'approprier le projet du développement des 145 territoires, annonce faite ce mercredi par la présidente de l'Assemblée lors de l'ouverture de la session de mars. Et pour préparer ce projet, les élus du peuple s'apprêtent à un contrôle sans complaisance des services publics, ce qui aidera l'organe délibérant notamment à prévenir les antivaleurs qui mettraient en danger la mise en application de ce projet du chef de l'État Paul-Richard Malengela.
La présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Molebo, s'est d'abord félicitée de l'atelier des députés provinciaux organisé du 19 au 21 mars dernier à Kinshasa à l'initiative du chef de l'État. Pour elle, le projet des 145 territoires est une première qui vise le développement à la base, d'où la demande qu'elle a lancée à ses collègues pour le soutien, l'accompagnement, le suivi et l'appropriation de ce projet. Face au détournement récurrent des fonds publics et à d'autres antivaleurs dans la province, Marie-Josée Molebo a mis en garde les mandataires ou gestionnaires de l'État qui s'hasarderait au détournement des fonds alloués à l'exécution du dit projet pour la population. Déjà à la faveur de la session de mars consacrée au contrôle parlementaire, elle a annoncé un contrôle sérieux des services provinciaux en vue de l'amélioration. Par ailleurs, la présidente de l'organe délibérant a loué la collaboration actuelle entre les deux institutions provinciales ayant ramené la calmie à l'Équateur. Cependant, elle a plaidé pour le paiement rapide des policiers qui cumulent à ces jours 3 mois sans salaire. Conséquence a-t-elle conclu? Il y a démotivation des policiers, donnant lieu à la multiplication des cas de criminalité sur la population. Mbandaka, prochain Malengue, la Radio Okapi.
Toujours hier, il y a eu aussi l'ouverture de la session parlementaire de la province du Tanganyika. À l'occasion, la présidente de l'organe délibérant, Virginie Nkulu Nemba, a loué les efforts du gouverneur Samba Kayabala pour le maintien de la sécurité dans la province. Au cours de cette session, plusieurs matières seront abordées, notamment Philbert Balolagué, la proposition des édits et des contrôles parlementaires.
Dans son discours, Virginie Nkulunemba aborde le sujet des choix du prochain gouverneur par un appel au calme et rassure la population que les députés vont faire un choix judiciaire lors des élections à main et c'est là pour l'intérêt de la province. Les dernières semaines, les choix du candidat gouverneur de l'Union sacrée a divisé la classe politique du Tanganyika. Au sujet du programme de développement de 145 territoires de la RDC, Virginie Nkulu rappelle que les députés du Tanganyika ont participé au séminaire d'appropriation du programme et invite pour cela la population à s'en approprier aussi pour un développement réussi à la base pour l'amélioration des conditions de vie. La session parlementaire du mois de mars va aborder plusieurs matières. On peut citer notamment la proposition des 10 portant entrepreneuriat des jeunes dans la province du Tanganyika, la proposition des 10 portant principes fondamentaux relatifs à la taxation des produits agricoles dans la province, la proposition des 10 portant mesures de sécurisation des terres arables. La présidente de l'Assemblée a présenté les activités réalisées pendant les vacances et a abordé d'autres sujets touchant la politique nationale et le mois de mars finissant.
Autre nouvelle, au Kwilu, plus de 1200 élèves de 5 écoles, tant primaires que secondaires, de la sous-division de l'EPST Idiofa Centre, en province éducationnelle Kwilu 3, dans le territoire d'Idiofa, étudient dans des conditions très déplorables depuis près d'un mois, c'est-à-dire sous les arbres. Les bâtiments de leurs écoles, les toitures ainsi que les tableaux ont été détruits par la pluie. Le sous-préfet de cette sous-division qui les dit indique que cet état des choses ne permet pas aux élèves de bien apprendre. Cyril Iloubé en appelle à l'intervention de toute personne de bonne volonté pour la reconstruction de ces écoles afin que les apprenants puissent étudier dans de bonnes conditions. Irène Bouma.
1223, c'est le nombre total de ces élèves qui étudient sous des gros arbres dans la sous-division de l'EPST Idiofa Centre au Kwilu. Les sous-préfets de cette juridiction précisent que cette situation a débuté depuis le 4 mars lorsque leurs écoles ont été complètement détruites par la pluie. Les écoles concernées sont notamment l'Institut ASEC dans la commune rurale d'Idiofa et à Obala, il y a l'Institut Salaken, l'EPD Idiofa, l'Institut Bosembode et l'EP Joaise. Cyril Iloloube déplore les conditions dans lesquelles ses élèves étudient car selon lui, ils sont exposés. Il lance un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté pour leur venir en aide.
Situation avilissante qui expose les apprenants à des intempéries. Une mélopée, un appel vibrant aux personnes sensibles, aux personnes de bonne volonté pour un secours vraiment illico en vue de pallier cette défaillance catastrophique. Nous avons des moyens aussi limités, les structures de bonne volonté d'intervenir.
Signalons que déjà quelques matériaux de construction tels que les tôles ont été remis à ces écoles par le député national Boris Mboukou et le sénateur Sacré Lancel. Cependant, Cyril Iloloube estime que cela est encore insuffisant pour couvrir tous les besoins. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, inauguration hier mercredi du centre d'appel Allo École au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Jean-Fassi Mouya, il est créé pour gérer les plaintes relevant du secteur de l'EPST, une cérémonie présidée par le ministre des tutelles, Tony Mwaba Kazadi.
Dans son allocution, le ministre Tony Mwaba Kazadi affirme que grâce à ce dispositif, le ministère de l'EPST marque un pas de plus vers la bonne gouvernance du système éducatif. Il permet l'exercice du principe de la redevabilité et une gestion saine du secteur de l'enseignement.
Aujourd'hui, comme un marathonien à l'esprit compétiteur et au mental des gagnants, je marque stratégiquement la pause, non pas pour dormir sur mes lauriers, mais pour répondre aux mêmes devoirs en faveur de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'Allo École, le centre d'appel du ministère de l'EPST en vue de l'exercice de la redevabilité, principe intrinsèque de la gouvernance. Ce dispositif nous place au cœur même de la pratique du mode partenarial où tout ce qui est fait par notre ministère pour ses bénéficiaires est fait pour et avec eux. Si nous sommes dans la bonne voie, les bénéficiaires, nous les ferons savoir. Et si par mégarde, notre impact n'est pas celui que nous avons envisagé, nous avons la possibilité, par ces mécanismes, d'en être informés par les bénéficiaires.
Notez que le 10 centre d'appel est joignable gratuitement pour tous les résidents en RDC à travers le numéro vert 178.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, hausse du taux de chômage, de la criminalité, scandale de corruption, soutien de la Russie contre l'Ukraine,
Tous ces reproches ont été formulés lors d'une motion de censure présentée par l'Alliance démocratique devant le Parlement. Une motion vouée à l'échec en raison de la confortable majorité dont dispose l'ANC à l'Assemblée nationale. Ce vote était surtout l'occasion d'un débat au Parlement ce mercredi 30 mars pour faire le procès du gouvernement et du parti au pouvoir et d'exiger du président Cyril Ramaphosa un remaniement ministériel de fond en comble.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Walter Mukendi, vice-président de la Commission économique et financière du Conseil économique et social. Il s'exprime sur l'avis de cette institution intitulée « Régulation de la circulation routière et renaissance de la contravention Balabala et à l'État ». Il explique dans cette recommandation faite au gouvernement comment le Conseil économique et social formule des propositions pour enfouir les caisses de l'État à travers les contraventions routières. Walter Mukendi est interrogé par Alain Irung.
Conseiller Walter Mukendi, bonjour.
Bonjour monsieur Alain.
Commencez par nous expliquer l'intitulé de cet avis.
Bon, voyez-vous, on dit régulation de la circulation routière et renaissance de la contravention. Et ça veut dire que lorsque les usagers de route, piétons, automobilistes, automoteurs, tout le monde qui fait usage de la route est soumis à un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment le code de la route et des tests réglementaires portant fixation de droits et taxes à l'initiative de la police. C'est pour dire que dans la circulation, il faut une réglementation qui fait que la conduite soit exemplaire sur la voie publique. Toutes les fautes ou les délits qui sont commis sur la voie routière doivent être sanctionnés. Et lorsqu'elles sont sanctionnées, on applique la contravention. La contravention, ça fait une amende qui fait la contrepartie d'une faute commise sur la route ou d'une faute dans la circulation. Mais alors, la République démocratique du Congo n'a jamais mis en valeur ou en évidence ou plutôt prendre une rigueur dans l'application de cette contravention dans la circulation routière. Le Conseil économique est parti d'une réflexion qui est partie de l'observation faite de par les États du monde pour voir comment eux régulent leur circulation, comment eux appliquent leur contravention pour décider cet avis qui est destiné aux décideurs des institutions délibératives de notre pays pour que les choses soient autrement que maintenant.
Qu'est-ce qui fait qu'une institution comme le Conseil économique et social puisse s'intéresser à la circulation routière, aux contraventions? Quel est le rapport?
Un rapport d'abord sur le plan social. Lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a un coût qui impacte les activités économiques et sociales, ça invite les conseils à s'intéresser. Mais aussi parce que nous sommes une institution qui avise sur le plan économique, il est très important que nous puissions intéresser les gouvernements à savoir qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur la circulation routière par la voie de la contravention, de recettes dites non fiscales. Il y en a beaucoup que l'État ne capte pas pour le ramener à la fois au trésor public et aux entités territoriales décentralisées. C'est en fait beaucoup d'argent. Les conseils venus pour arrêter les dysfonctionnements et les contre-performances économiques. Voyez-vous que là, c'est une piste de beaucoup d'argent que l'État n'a pas réglementé de façon à prendre le maximum de recettes non fiscales qui circulent sur la voie publique et qu'on gère parfois de façon pas très recommandable.
Nous voyons par exemple sur nos routes des roulages interpellés un conducteur, l'arrêter et puis ils saisissent les documents, il s'ensuit une conversation en informel. C'est assez rare que ça arrive jusqu'au bureau et le conducteur donne un peu d'argent à l'agent de police et puis c'est fini, on lui retourne ses documents et puis il est parti.
C'est déjà ceci qui est de fait extra-réglementaire, qui viole en effet les codes de la route. Tout cet argent qui part dans des poches de policiers ne devait pas l'être si l'État était très regardant à ces propos. Et donc, nous voulons que la rigueur soit très appliquée, qu'on puisse même avoir un système de gestion rationnelle, de collecte de toutes ces recettes non fiscales générées par la contravention, y compris que l'État doit instaurer désormais un système digital centralisé pour capter toutes ces recettes, à la fois découlant de contraventions, comme je le disais depuis tout à l'heure, et découlant également des immatriculations et des permis de conduire et tous les signes distinctifs qui sont d'application sur la voie routière.
Les avis du Conseil économique et social ne sont pas coercitifs, ils sont à prendre ou à laisser. Pensez-vous que le gouvernement en tiendra compte?
Monsieur Alain, quand vous êtes conseiller de quelqu'un, vous ne l'obligez pas d'accepter vos conseils. C'est ça la difficulté pratique que nos avis peuvent souffrir. C'est-à-dire, ça n'a pas ce caractère d'imposition. Mais parce que le Conseil économique et social est une institution constitutionnellement instituée, le décideur a l'obligation de voir nos avis et de le mettre en application, donc d'en faire exploitation utile.
Qu'est-ce que vous répondez à certains compatriotes qui pensent que le Conseil économique et social est une institution inutile, budgétivore, qu'il faudrait simplement supprimer?
Déjà, c'est un constat d'ignorance populaire, malheureusement. Le Conseil joue un grand rôle. Tous les avis du Conseil économique et social, si vous prenez le temps de le pénétrer, il y en a depuis l'existence du Conseil plus d'une trentaine, offrent à la gouvernance de cet État des pistes de solutions à beaucoup de problèmes qui étaient mal jurés.
Conseiller Walter Mukendi, je vous dis merci.
Notez que le Conseil économique et social ouvre demain vendredi sa session ordinaire d'avril. Voilà, c'est la fin de cette édition, mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée par Élisée Tikota sous la supervision d'Alain Irung. Moi, c'était Jacques-Yves Molima. Merci de nous avoir suivis.